France Culture. Affaires culturelles. Arnaud Laporte.
Ce soir, je reçois Jean-Marc Rochette. Vers 19h45, le son du jour, nous écouterons Kiss Me Before I Forget de Shabaka. Vers 19h50, le grand tour de Marie Sorbier qui nous emmène ce soir dans la ville de Troyes pour visiter la cité du vitrail. Le tout est réalisé par Alexandre Faugeron avec Ludovic Auger à la prise de son. Bonsoir Jean-Marc Rochette.
Bonsoir.
Vous venez de publier Au cœur de l'hiver aux éditions Les Étages, vous dont on connaît l'œuvre picturale, les bandes dessinées. Ce livre est une première, ce qui ne va pas nous empêcher quand même de revenir sur quelques moments importants de votre parcours pour en savoir plus sur ce qui nourrit vos créations avant de parler bien sûr de ce livre. Alors si vous êtes né à Baden-Baden, c'est parce que votre père était médecin, appelé du contingent, en garnison dans cette ville. Hélas, il est mort en 1957 en Algérie. Vous avez un an, une enfance qui se déroule donc auprès de vos grands-parents paternels et maternels de part et d'autre du Rhône, Condrieu, et puis les Roches de Condrieu, on connaît le bon vin. Votre grand-père paternel, Jean-Désiré Rochette, à qui est dédié le Loup, on l'évoquera sans doute, cet album, c'est une grande figure de la résistance dans les maquis ardéchois. Il vous racontait, dites-vous, sans filtre, ses faits d'armes. Votre mère, elle est devenue assistante sociale, c'est pour son travail que vous avez emménagé à Grenoble quand vous aviez, vous, Jean-Marc Rochette, une dizaine d'années. Alors, de par le travail de votre mère, de par les récits de votre grand-père, de par la mort de votre père, on imagine que vous avez très jeune une vision assez lucide et donc assez dure du monde dans lequel vous grandissez.
Oui, je suis surpris de toutes les informations que vous avez. Ça a été tout à fait marquant en fait. D'abord le lieu, parce que c'est un lieu qui était séparé par un pont, et donc je traversais sans arrêt ce pont entre mes grands-parents paternels et maternels, puisque ma mère faisait des études. Et puis j'allais très souvent au cimetière. Voilà. Donc toute mon enfance, ça a été un peu ça. Quoi. Donc j'ai commencé avec sans trop croire au Père Noël.
Ouais. On l'imagine bien. La passion première, on le sait bien, c'est la montagne et très vite l'alpinisme, un goût qui naît lors de randonnées avec votre mère dans les montagnes autour de Grenoble, ça manque pas. Un goût qui se confirme très vite dans ce nouveau livre, dans ce livre Au cœur de l'hiver, vous écrivez à Jean-Marc Rochette, j'ai découvert l'Oisan à la fin de l'enfance, je devais avoir 12 ou 13 ans. Quand je suis monté avec ma mère au col du Giobernais par le versant Val-Godemar, ce fut mon premier contact avec ce qu'on peut déjà appeler la haute montagne, de 3233 mètres tout de même. Et écrivez-vous, si je ne garde aucun souvenir de la Bavante qui y mène, la vue au sommet fut un éblouissement, une révélation. Alors la Bavante, hein, je précise, dans le langage montagnard, c'est une alternance de montée et de descente. Est-ce que c'est dès ce moment-là, donc quoi, 12-13 ans, que vous décidé, vous avez l'envie irrépressible de devenir guide de haute montagne?
Surtout, j'ai été tout à fait sidéré par la beauté de ce lieu. Quoi. À l'époque, il y avait énormément de glace. Et donc, la face nord des bancs, puisque c'est elle qu'on voit par la tranche, c'était littéralement une dague. Enfin, c'était quelque chose que j'ai eu envie de gravir. Et c'est là que je suis tombé un petit peu en amour pour ça. Et après, après je pensais plus qu'à ça, en fait. Mmh. Ça a d'ailleurs été très mauvais pour mes études parce que j'étais un peu obsédé par la haute montagne.
Mmh. Alors, obsession, qui va connaître un coup d'arrêt en 76. Vous avez 20 ans, et lors d'une ascension, il y a une pierre qui tombe sur vous, qui vous fracture la mâchoire. Alors forcément, il va dès lors y avoir de l'appréhension qui va sans doute dominer et qui va vous faire renoncer à ce premier rêve. Mais heureusement, il y a eu quand même une autre passion qui est le dessin. Bien sûr, ça commence enfant, mais comme le disent vos autres camarades dessinateurs, illustrateurs, tous les enfants dessinent, nous on a continué, vous aussi vous avez continué, mais Pendant ces années, vous étiez obsédé par la montagne. Est-ce que vous continuiez le dessin ?
Non, il y a un moment où j'ai délaissé le dessin pour faire uniquement de l'alpinisme. Et c'est ce fameux accident qui, en fait, m'a rendu craintif sur le rocher. Ouais. Et donc, je me suis mis à dessiner. Et très curieusement, j'ai fait alors que j'étais un dessinateur assez moyen, pas meilleur que les autres, en fait. Enfin, j'étais pas le petit génie du lycée, quoi. Et puis, le fait après cet accident, j'ai fait ça beaucoup plus sérieusement et je suis devenu très vite j'ai été publié très vite, en fait.
Mmh. Oui, ça va vite. Alors, bon, il y a aussi pour dire ce qui forme le goût, il y a les BD que vous lisez, on y reviendra, mais il y a quand même aussi le musée de Grenoble, qui est important. Il y a l'étoile de Soutine, il y a ce bœuf écorché qui vous marque durablement. Mais il y a aussi tous les expressionnistes allemands, Gross, Otto Dix, Emil Nolde, pour la plupart des anciens combattants de 14-18 qui ont été considérés comme des artistes dégénérés par les nazis. Le bœuf écorché, Soutine, d'ailleurs, il passe dans l'aile froide. On le voit par là. Elles ont quel effet, ces toiles, sur vous, Jean-Marc Rochette? Et puis, vous avez quel âge quand vous fréquentez ce musée?
Oh, je dois voir... peut-être... Parce que, je suis d'abord intéressé par la peinture, et pas par la bande dessinée. La bande dessinée, c'est un truc d'enfant, je lis Tintin, comme tout le monde, et puis après, je commence à m'intéresser à la peinture, alors comme Van Gogh, évidemment, tout ça. Je me voyais bien un avenir de peintre... Et donc j'allais au musée de Grenoble, et effectivement, c'est un très beau musée, je crois que c'est le deuxième en France pour la collection moderne. Et puis, je regarde ça avec passion, et puis surtout les Allemands, quoi. Et quand j'ai commencé à voir la peinture, le dessin allemand, Otto Dix, Georges Gross et tout ça, la représentation de 14-18, là j'ai été... C'est là où j'ai commencé à me demander si le dessin n'était pas plus puissant que la peinture elle-même, quoi.
Ah oui, carrément.
Oui, parce que je trouvais qu'il y avait une espèce d'évidence dans le noir et blanc, la puissance du dessin, dans ce qui était dit. Mmh. Et c'est là où j'ai commencé à passer d'Otto Dix et tout ça aux Américains, en fait, à l'underground américain. C'est un peu là que ça s'est passé, mon intérêt pour la bande dessinée.
Oui, parce qu'il y avait en effet les Tintins de l'enfance. Ça, c'était quand vous alliez chez le dentiste, que votre mère vous achetait les Tintins, paraît-il. Puis quand même, Uderzo, c'est quand même pas rien aussi, ouais. au niveau dessin. Mais donc, effectivement, et notamment dans les pages d'actuel, et ça va être important, tout cet underground américain qu'on connaît bien aujourd'hui, les Crumb, les Corben, les Gilbert Shelton, mais aussi Francis Mas, qui habitait lui-même Grenoble. Alors, vous êtes allé à sa rencontre, Jean-Marc Rochette, alors vous dites que c'est pas spécialement passionnant ce qui s'est dit, mais le simple fait de voir qu'on pouvait vivre de ça, ça a été quand même important.
Oui, alors Francis Mas, il habitait Grenoble et je suivais des cours de dessin et j'ai un prof qui me dit qu'il connaissait Francis Mas. J'étais éberlué parce que je croyais que tous les dessinateurs d'actuels étaient de la côte ouest, sauf Mas qui habitait au bord de l'Isère. Et donc c'est là où je l'ai rencontré. Et il était totalement passionné par ce métier et je me suis dit mais effectivement il y a de l'art là-dedans, il y a une espèce de pulsion de vie, etc.
Et puis on peut en vivre.
Et puis je voyais qu'il en vivait, ouais. Enfin, on en vit comme tranquillement, mais on pouvait en vivre, ouais.
Ça peut être un métier.
On peut en vivre. Ouais.
Alors, vous commencez à dessiner dans des fanzines grenoblois, le Canard Sauvage, Zeno, et puis donc, il y a un numéro que Jean-François Bizot, le patron d'Actuel, découvre. Il s'est dit, ah tiens, ce petit Rochette a bien du talent. Et il a été très important, Jean-François Bizot, pour tellement d'artistes. Il faut toujours saluer vraiment sa mémoire et sa vision. Et il vous commande des pages pour Actuel. Voilà, parti pour Paris. Alors, on va pas refaire tout le parcours, Jean-Marc Rochette, mais on peut rappeler que vous allez créer avec Martin Véron la série Edmond le Cochon, que vous allez également créer le personnage de Claudius Vigne, qui paraît dans la revue À Suivre, où il y aura d'autres récits. Ça commence en effet très fort. Ces premiers temps à Paris, vous les vivez comment? Ça vous paraît aller vite ou c'est finalement assez normal pour vous à ce moment-là?
Alors, c'est la fin des années 70. Je suis très proche de très proche. Je connais Villemain, Véron, Mandrika surtout.
Ah ouais.
C'est un espèce d'underground qui existe, Marc Caro. Des soirées mémorables avec Pacadis et tout ça, c'est un monde qui je descends des montagnes pour rentrer dans les
grottes de
je sais pas dans quoi, mais bref. C'était un pari très vivant en tout cas. Et là j'oublie totalement la... Ah non, je vais grimper encore un peu à Fontainebleau de temps en temps. pour me refaire un peu la santé après une
des soirées un peu trop fortes.
Ouais.
Et puis 82, vous avez donc 26 ans, si c'est à peu près compté, quand le scénariste Jacques Lob vous propose de collaborer avec lui à la série Transpersonnages, qui paraît dans À suivre. Il faut dire que le dessinateur Alexis qui avait commencé meurt subitement, une rupture d'anévrisme, et donc Lob vous demande. Alors, l'histoire du transpersonnage, elle est évidemment intéressante à plus d'un titre, parce que d'abord, vous ne le savez pas à ce moment-là, mais elle va durer près de 40 ans, le dernier volume ayant paru en 2020, mais aussi parce qu'elle permet aussi, on va en reparler, de voir votre évolution et artistique, et intellectuelle, et politique, à bien des égards. Alors, pour rappel, quand même, il faut... celles et ceux qui ne connaîtraient pas le transpersonnage. On est dans un temps d'après un cataclysme climatique, et donc tous les survivants de l'espèce humaine, pense-t-on, sont enfermés dans un train gigantesque, qui a des centaines de wagons, qui roule sans jamais s'arrêter, parce que dehors il fait beaucoup trop froid, et puis on retrouve les classes sociales en tête du train, l'aristocratie les plus riches, et dans les wagons de queue, les plus pauvres, qui sont la main-d'œuvre, en fait, hein, pour faire vivre et marcher ce train, et puis il y a ce héros, Prolof, qui part donc des wagons de queue pour... allez voir ce qui se passe si on remonte. Ça, c'est le point de départ. Avant de parler du fond, quand même parler de la forme, vous n'avez pas le vertige, Jean-Marc Rochette, quand Jacques Lob vous propose cette aventure-là?
Ah si, c'est, pour moi c'est vertigineux, parce que je suis surtout connu comme un dessinateur underground, l'équivalent de Crumb, avec des personnages infréquentables, et un dessin qui est très proche du dessin des dessinateurs allemands, et puis de l'expressionnisme. Et de l'expressionnisme, et là on me demande de faire une BD dite professionnelle, c'est-à-dire d'un seul coup c'est du réalisme. Et je me souviens que les 10 premières pages, je suis en panique, d'autant plus que c'est presque publié immédiatement dans la suite. Je sais que tous mes collègues me jugent, et j'étais le pire des juges. Je voyais bien qu'il y avait des fautes partout, quoi. Et puis bon, j'étais très angoissé. Puis finalement, au bout de 10 pages, ça s'est décoincé. Et la BD a eu le succès j'aurais jamais parié que cette bande dessinée serait connue près de 50 ans après, quoi.
Alors, il y a une histoire, parce qu'elle n'est pas connue aussi rapidement, mais pour parler de fond un petit peu, on va écouter votre confrère Enki Bilal parler de science-fiction, une acception un peu large, c'était dans ses avenues sur France Culture en 2020 au micro de Pierre Chassagneux.
C'est un genre que je défends aussi parce que il permet, c'est un agencement des temporalités, le présent, le passé et le futur, les trois, conjugués ensemble, donnent un terrain de jeu intellectuel que je trouve, moi, très, très, très excitant et que je trouve bien plus efficace qu'un seul élément temporel, que ce soit le présent ou seulement le passé. Voilà, le passé, il est nécessaire. Pourquoi ? Parce qu'il il donne des clés, des éléments pour comprendre l'évolution, alors des sociétés, etc. C'est l'histoire, hein, avec un grand H. C'est la mémoire aussi de l'humain. Le présent, c'est l'expérience, c'est une forme d'aventure. Donc ça aussi, c'est très. Il faut le prendre en compte, parce que c'est directement découlé du passé. Donc il y a un lien fort qu'il faut essayer de comprendre et d'expliquer. Et puis alors cette zone qui dans la culture française est souvent méprisée, donc c'est celle du futur. Méprisée parce que on entre dans l'ordre de l'imaginaire, on entre dans quelque chose qui n'est pas ou qui ne peut pas exister. Et c'est là que, en conjuguant les deux précédentes temporalités, on arrive à ce que moi je trouve très excitant, c'est cette plausibilité. C'est ce que je préfère que science-fiction, je préfère dire prospective. Donc il y a un aspect prospectif.
Alors, est-ce que vous vous reconnaissez, Jean-Marc Rochette, dans ces propos d'Enki Bilal?
Alors, Enki est beaucoup plus un auteur de science-fiction,
oui,
que moi. Lui,
bien
toute
sûr.
Sa vie, il a fait ça. Moi, je l'ai fait un peu grâce à Jacques Lob, mais j'ai vu toute la qualité métaphorique qu'on peut avoir dans la science-fiction. Et donc, oui, je suis entièrement... c'est surtout une prospective, comme il dit, mais ça permet toutes les libertés. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on pourrait bien imaginer, ce qui va se passer, etc. Donc oui, moi j'ai adoré ça au final. Alors qu'au départ, c'était pas ma zone la plus. J'étais beaucoup plus pragmatique que ça, quoi. Tandis qu'après le train, j'en ai fait d'autres. J'ai fait Requiem Blanc. J'ai fait pas mal de livres de science, de livres de science-fiction. Mmh. Mais...
Et puis passé, présent, futur. C'est vrai que les derniers tomes parus, c'est ce qu'on appelle des préquels. On y reviendra, c'est-à-dire ce qui se passe avant le premier album publié. Mais il faut rappeler quand même, effectivement, le succès est venu, mais le premier transpersonnage, il reçoit un bon accueil critique, mais il fait pas des ventes faramineuses. Alors, il y a quelques autres albums que vous faites ensuite, Jean-Marc Rochette, mais il va y avoir cette collaboration avec le journal L'Équipe. Vous faites des dessins techniques, il s'agit d'expliquer un essai en rugby, le plus beau but de la semaine en foot. C'est un travail qui est bon, bah c'est salarié, donc comme ça permet de vivre, mais ça permet surtout, et on va y revenir plusieurs fois, vous consacrer à nouveau à la peinture pour une pratique personnelle qui cherche pas l'exposition, mais qui semble davantage être une forme à cette époque-là d'introspection. Quel type de toile vous peignez à ce moment-là?
Je savais pas pourquoi je faisais ça par j'avais l'impression que mes rêves d'enfance, de cet enfant dont on parlait, qui avait 12-13 ans et qui allait au musée de Grenoble, était en train de s'enfuir et j'allais être un auteur de bande dessinée qui allait faire une Montcochon toute sa vie et ça me déprimait atrocement, quoi. Et donc j'ai commencé à peindre comme s'il y avait quelque chose à découvrir. J'avais pas l'intention d'exposer particulièrement, mais je pensais qu'il y avait une espèce de magie dans cet acte gratuit. Et donc j'ai commencé par faire des peintures relativement réalistes pour me rassurer. Et puis plus et en fait je suis retourné dans une espèce de matérialisme très étrange. Je faisais des choses grises, un peu comme un peintre qui s'appelle Charlton, en anglais. Et puis j'ai vite vu que c'était très dangereux de faire ça. Il fallait sortir du tombeau, quoi, de ce gris qui je sais pas, peut-être que ça avait à voir avec, je ne sais pas. Enfin, j'ai un peu l'idée de pourquoi je faisais ça. Et donc je me suis sauvé de la peinture que je trouvais mortifère. À ce moment-là, en tout cas.
À ce moment-là, parce qu'après le gris viendra le bleu et on en parlera. Mais à la fin des années 90, vous revenez. Pour le coup, au transpersonnage, avec Benjamin Legrand puis Olivier Bocquet, puisque Jacques Lhomme était décédé entre-temps. Peu après, vous allez retourner aussi vers l'humour, avec René Pétillon, et puis vous retrouvez votre camarade Martin Véron. Et puis, cette histoire en 2004, quand Bong Joon-ho, le cinéaste, tombe par hasard dans une librairie à Séoul sur une édition du transpersonnage dont il achète les droits. Alors, le film Snowpiercer au casting 5 étoiles sort près de 10 ans après, parce que c'est une grosse production, 2013, je crois, immense succès en Corée du Sud et un peu partout dans le monde. On y voit d'ailleurs quand même dans ce film certains de vos dessins dessinés par un des passagers des wagons de queue. Plus récemment, Netflix qui a donc fait aussi une série, 3 saisons de Snowpiercer. Alors au-delà du fait que vous êtes devenu une rockstar en Corée du Sud, Jean-Marc Rochette, ça a bien sûr relancé la saga. Il y a eu Terminus, scénarisé par Olivier Bocquet, puis donc ces 2 tomes de préquel parus en 2020. Je le disais tout à l'heure, c'est intéressant parce que à bien des égards, on peut y voir aussi une forme d'autobiographie dans cette série, parce que bon, Proloff vous ressemble, hein, mais aussi parce que dans ce préquel que vous avez co-scénarisé avec Mats, c'est important. Il y a tous ces thèmes qui traversent quand même vos œuvres depuis des années et qu'on retrouve dans ce livre, Au cœur de l'hiver, la question de l'écologie, la question des flux migratoires, la question du nucléaire, la question de la lutte des classes, la question du pouvoir. La phrase en exergue, c'est « La terre est ravagée par un mal qui semble incurable, l'humanité ». Le transpersonnage, c'est un véhicule de toutes vos préoccupations.
Oui, j'ai trouvé que c'était. Enfin, Jacques Lhomme a trouvé la structure ultra simple de ce train et qui d'ailleurs en fait, je pense, le côté universel. C'est pour ça que ce livre est connu et grâce surtout à Bong Joon-ho. Mais Bong Joon-ho s'est intéressé à ça parce que le sujet était très simple. Mais finalement, il résume assez bien l'histoire humaine. C'est-à-dire, on est quand même coincé pas dans un train, mais on est coincé sur une terre qui tourne effectivement éternellement autour du soleil, et avec des sujets récurrents qui sont la violence, qui sont
les inégalités, la lutte des classes.
Et donc moi, après, je me suis amusé, on va dire, avec d'autres scénaristes, à voir ce que je pouvais rajouter à la première couche de l'aube. Donc, par exemple, sur le deuxième avec Legrand, c'était sur le mensonge, en fait. c'est-à-dire le mensonge pour gouverner, etc. Le troisième, c'était l'espoir déçu. Les gens pensent toujours que demain, ça ira mieux. Et puis, de génération en génération, il vaut mieux que ça recommence. Et puis, Terminus, un livre pour qui j'ai énormément d'affection, c'est avec Bocquet. Là, c'est la descente aux enfers. En fait. J'ai d'un seul coup, dans le système qui était horizontal, il devient vertical. Et dans mon histoire, nos héros descendent au fin fond de l'enfer de Dante. Et puis, pour le préquel, c'est un peu maintenant. C'est-à-dire que c'est la science-fiction qui revient maintenant. Et c'est le terrorisme écologique, la perte des enfin, tout ça. Donc, j'ai essayé, avec mes camarades scénaristes, de raconter un peu ma vision du monde. Quoi.
Alors, avant de revenir au Jean-Marc Rochette, peintre et aujourd'hui écrivain, on va découvrir votre choix musical qui s'est porté sur un morceau du musicien anglais Pierce Falcini, qui se trouve être lui aussi peintre. Ne l'oublions pas. Pourquoi ce choix ?
Parce que je l'ai rencontré dans un festival sauvage, je crois. C'était, et il a chanté dans une église. Et j'étais là et j'étais tout à fait émerveillé par sa musique. Et puis après, on a discuté un peu, on a eu des projets communs. En plus, j'ai vu qu'il était peintre, mais c'est surtout là pour parler de sa musique. J'ai été époustouflé par sa grâce, en fait.
Bon, on partage cette grâce, voilà, avec ceux qui nous écoutent.
Color breaks
c'était Pierce Faccini Dunia, le choix musical de Jean-Marc Rochette, ça nous a fait du bien. Merci à vous. Et on va poursuivre, évidemment, en revenant sur votre passion pour la montagne, alors que c'est exprimé notamment dans Aile froide, altitude de 3954, un récit qui est celui de votre enfance et de votre goût pour les hauts sommets, qui est un livre important, bah d'abord pour sa dimension autobiographique, grand succès public aussi, et puis cette fois, c'était une première pour vous, une co-scénarisation avec Olivier Bocquet. Alors la montagne, on la retrouve bien sûr dans Le Loup, plus récemment, Un berger des Alpes et donc Le prédateur de ses brebis, Dernière reine, c'est sur la dernière ours abattue dans le Vercors en 1898, puis tout récemment, Aux étages, justement, Un bestiaire des Alpes, petit portrait par l'image et le texte de ces animaux, les chamois, les marmottes, les renards, les blaireaux, les chocards. Mais la montagne, c'est bien sûr aussi l'objet de vos recherches picturales depuis longtemps, et on y revient. Alors, notamment, ça a été sous l'impulsion d'Elisabeth Chambon, qui dirigeait le musée Géo-Charles Deschirolles. Après Le Gris, Le Bleu, Jean-Marc Rochette, pour la montagne.
Non, c'est une histoire assez étrange, parce que c'est Elisabeth avait trouvé un de mes livres qui s'appelait Himalaya Vaudou, où je parlais, c'était une pochade, un truc assez drôle, mais elle a trouvé qu'il y avait quelque chose de pictural, donc elle m'a contacté pour faire une exposition, et j'ai décidé que j'allais faire quelque chose sur ma vallée, enfin sur la... Et donc je me suis reposé les questions de ce que c'est que le paysage, quoi. Je pensais que le paysage n'était pas du tout mort pour la peinture, et qu'il fallait simplement trouver un alphabet nouveau pour essayer d'exprimer ce qu'on avait à dire sur la montagne, entre autres, mais sur autre chose, si on veut, sur les arbres, sur les... Et effectivement, la montagne, c'est la base de mon alphabet. Je sais ça parce qu'il y a des fractures, c'est un lieu éminemment pictural, hein. C'est de la matière... J'avais trouvé cette expression, mais c'est de la matière spirituelle. Mmh. Et ce que je pense, c'est la définition de la peinture, finalement. C'est-à-dire, c'est une matière neutre, mais qui dégage de la spiritualité. Et ça, c'est ce que je ressens en montagne, profondément. Et le bleu étant, alors lui, le sommet de cette matière spirituelle.
Sur la pratique picturale, et avant d'y revenir avec vous, on va écouter le peintre Zhao Wuqi au micro de Georges Charbonnier. C'était en 1957.
Zhao Wuqi, quelle est l'utilité du monde extérieur? Vous êtes peintre, à quoi vous sert le monde extérieur?
Le monde extérieur, pour moi, c'est une utilité quand je m'en sers. Quand je ne m'en sers pas, il ne m'appartient pas. À ce moment-là, il n'existe pas ce monde extérieur.
Vous voulez dire qu'il n'existe que par rapport à vous?
Oui.
Et non pas par rapport à moi.
Non.
Que si je prends par exemple cet objet, un stylo, dans la main,
oui,
que je le tiens dans ma main, il n'a pas d'existence pour vous, ce stylo.
Quand je n'en sers pas, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Je ne peux pas dire que c'est un stylo.
Parce que vous n'en avez pas l'expérience complète.
C'est ça.
Vous en avez l'expérience visuelle, pourtant.
Je ne sais pas est-ce que ça marche ou ça ne marche pas.
Mais... lorsque je vous entends là, après ce que vous venez de dire, on pourrait croire que pour vous, il y a une séparation complète entre vous-même et le monde extérieur. Mais si vous êtes en face d'une montagne, par exemple, et que vous voulez la peindre,
oui,
cette séparation n'existe plus.
À ce moment-là, quand je peins la montagne, la montagne devient moi-même. À ce moment-là, la montagne, c'est moi. Je suis la montagne aussi. Il n'y a plus de l'âge aussi, parce que je vis même époque que la montagne. La montagne, même l'âge que moi. Quand je peins la montagne vit la même émotion devant moi. Elle est à moi, et la montagne devient moi-même. C'est pourquoi je trouve que la montagne, à ce moment-là, devient vous-même. Si vous ne pouvez pas pénétrer dans cette montagne, vous ne pouvez jamais exprimer une montagne que vous avez ressenti.
Autrement dit, vous ne croyez au monde extérieur que si vous avez avec lui un rapport de peintre.
Si vous n'avez pas de contact personnel, on ne peut jamais peindre.
Comment vous entendez ces propos de Zhao Wuqi, Marc Rochette?
Je suis entièrement... Enfin, ça me parle évidemment, d'autant plus que c'est un Chinois, donc les Chinois ont toujours pensé que la peinture et la montagne étaient intimement liées avec le vent et les éléments.
C'est quelque chose de très très animiste dans votre rapport au monde. Et donc avec la montagne aussi. Pas seulement les animaux, pas seulement la nature, mais avec... La montagne, c'est vivant.
Oui, oui, tout à fait. Tout est vivant. Enfin, évidemment, tout ce qui est animal, végétal, c'est vivant. Mais ce qui est pierre est tout à fait vivant aussi. Chaque montagne a son esprit. Enfin, personnellement, et puis en plus, j'ai une expérience qu'on appelle ontologique ou océanique de la montagne. C'est-à-dire quand je suis en montagne, quand je suis seul en haut d'un, je vois bien qu'il y a une espèce d'échange entre l'extérieur et l'intérieur. C'est pas si opaque que ça. Enfin, l'iris ne nous enferme pas dans le scaphandre, il y a quand même une ouverture, quoi.
Bah tiens, justement, à ce propos, on va écouter Georges Rebuffa, célèbre alpiniste qui participa notamment à la première ascension de l'Annapurna. Il était invité de Jacques Chancel dans Radioscopie en novembre 70.
Je crois que par la force des choses, si vous voulez, premièrement, tout est allé très vite. Ça s'est accompagné d'une séparation de l'homme avec la nature. Moi, j'ai la chance d'avoir un métier où je suis fonction de la nature. En ce sens que, pour vous, par exemple, pour beaucoup de personnes, j'espère pour toutes, un coucher de soleil est une belle chose. Il y a un peu de tristesse, mais c'est aussi une promesse. Et c'est ce en quoi un coucher de soleil est un très beau spectacle. Cependant, pour moi, ça veut dire... Plus que ça, si vous voulez, la façon dont le soleil se couche, ça sous-entend que la neige sera dure ou sera pas dure, qu'il va faire très froid, que la neige sera bien prise par conséquent, ou le contraire. Si la neige est bien prise, m'accorder le lendemain matin, vous savez qu'on part, selon la course envisagée, entre 1h et 5h du matin, m'accorder marchera facilement, parce que les pieds ne glisseront pas, on n'enfoncera pas dans la neige molle. Et d'autre part, il n'y aura pas de danger, ça veut dire que les ponts de neige seront solides et que la neige, n'étant pas ramollie par le soleil, ne risquera pas de couler en avalanche. Autrement dit, vous voyez que pour moi, je suis étroitement en fonction du soleil. Voilà, alors j'ai cette chance, il est clair que, enfin, c'est exact pour mon métier, mais que pour des tas d'autres personnes, bon, on n'est plus fonction du soleil. Le soleil qui est une chose qui, en fait, au fond, nous est donnée, et que bien souvent, on a tendance à considérer comme si c'est dû, quoi.
Oui, mais lorsque vous dites « la nuit n'existe plus, ni le froid, ni le vent, ni les étoiles. Les étoiles, la nuit, je veux bien, mais le froid et le vent, lorsqu'on voit ces photos d'hommes accrochés à des sommets. »
Non, pour nous, ça existe, justement. Et moi, j'aime bien avoir faim, avoir soif, avoir froid, avoir chaud. C'est un peu comme les bêtes. Si vous voulez, j'aime beaucoup les bivouacs, par exemple. J'ai eu la chance, déjà, quand j'étais jeune... d'avoir à bivouaquer pour mon propre plaisir. Puis après, j'ai bivouaqué des tas de fois, bien sûr, en montagne, en bordure de mer ou dans le désert. Et c'est quelque chose qui est assez extraordinaire, de dormir, d'une part, le dos à la terre. Et c'est un peu enfantin de dire, mais c'est aussi un plaisir de sentir la terre qui tourne dans son dos. Et d'autre part, de faire confiance, d'avoir rien au-dessus de soi, de pas être bouclé par quelque chose. Et puis le soleil s'en va d'un côté, et on tourne la tête, et le lendemain matin, il revient de l'autre, et d'être réveillé comme les bêtes, comme le grain de sable, comme le flocon de neige, si je puis dire, de vivre comme eux, d'être pas plus qu'eux, autant qu'eux, et d'être au diapason, d'être accordé.
Voilà, avec Georges Rebuffa, grand alpiniste, hein, Jean-Marc Rochette, on en vient vraiment aussi à ce livre, Au cœur de l'hiver, qui vient de sortir. Alors, comme je signale concernant votre pratique de la peinture, je renvoie au livre de conversation avec Fabrice Gabriel, le manifeste pour peindre le bleu du ciel, parce que on y apprend beaucoup sur Jean-Marc Rochette, peintre. Mais là, ce livre qui paraît aux éditions Les Étages, la maison d'édition la plus haute de France, Les Étages, hein, c'est le nom de ce hameau dans le massif des Écrins, où vous rendez, alors, en bravant les interdictions liées au confinement. C'est pas bien, hein, avec votre compagne, Christine, qui avait d'ailleurs elle-même d'abord détesté l'endroit, 3 ans plus tard, le découvrant avant d'être saisie par sa magie. Il faut préciser que Les Étages, ce hameau n'est plus habité depuis l'hiver 1962. Alors la route, 7 kilomètres, qui permet d'y accéder, est fermée du 15 décembre au 15 mars. Alors, y vivre à la nuée, c'est donc vivre 3 mois à 1600 mètres d'altitude, coupé du monde. Alors, tout ce qu'évoquait là, Gaston Rebuffa, d'une certaine façon, c'est ce que vous avez recherché à vivre, vous et votre compagne. Retrouver un lien nature
Oui, vrai. Tout à fait, mais bon, j'ai acheté ce lieu sans penser que j'allais y passer l'hiver. Et donc, parce que c'est quand même un lieu qui est quand même assez austère en hiver, on a très peu de soleil. Gaston là, nous parle du soleil, et c'est vrai que nous, on a une demi-heure de soleil par jour.
Et une demi-heure,
ah oui, une demi-heure,
c'est
oui.
Pas beaucoup, oui.
Mais après, il monte, et puis une demi-heure, c'est au plus bas, et après, il remonte, et après, dans l'été, on l'a de 8h à 10h du soir. C'est, ouais. C'est bien fait. et donc, suite au confinement, que j'ai assez peu apprécié, je me suis dit, tant qu'à être confiné, autant que ça soit d'une manière naturelle. Mmh. Et là, c'est effectivement un confinement, à partir du moment où la neige tombe. C'est fermé, enfin en tout cas on peut passer, mais il y a quand même des jolis couloirs d'avalanche. Mmh. Et alors on redécouvre une forme de vie que moi j'avais oubliée, parce que entre un alpiniste c'est une chose, mais on monte et on redescend et on tourne à Grenoble, à Lyon ou à Munich. Mais quand on vit là-haut, on est dans la montagne complète, quoi. Donc ça, il y a un autre sens. La neige, c'est pas du tout la même que pour un skieur. Les animaux rapidement nous observent et commencent à finir par nous faire confiance. Ils arrivent. Et on retrouve cette relation animiste dont vous parliez tout à l'heure, mais on l'a. C'est plus du tout une espèce de fantaisie citadine. Ça, on comprend bien pourquoi les peuples premiers ont pu avoir cette relation aux animaux et aux lieux aussi. Parce que les lieux sont magiques. Les lieux, ils disent des choses. Moi, par exemple, en montagne, il m'est arrivé d'avoir peur dans des endroits. Et quelques temps après, il y avait des énormes chutes de pierres. Donc, on a quand même une espèce d'instinct animal, comme les fameux animaux qui montent dans les hauteurs sur les tsunamis. Hein. Et en fait, on l'a perdu, mais quand on se retrouve dans une situation comme ça, ça revient, quoi.
Mais à quel moment vous êtes dit que il y avait un livre à écrire? À quel moment vous êtes dit que c'était par l'écrit que vous aviez envie de partager cette expérience?
C'est-à-dire que je voulais partager cette expérience, mais ma question, c'est de savoir si j'allais en faire une bande dessinée, pour laquelle j'ai un savoir-faire, ou un livre, où là, j'étais effectivement un peu moins sûr. Et puis, je me suis aperçu que ça ferait une bande dessinée relativement faible, et qu'il fallait parler, il fallait que le narrateur dise « je »,« nous ».
Il y avait besoin des mots et que des mots.
Des mots, ouais.
Enfin, même s'il y a quelques illustrations dans le livre, mais...
Oui, des mots, et curieusement, moi qui suis plutôt un paysagiste en peinture, je me suis aperçu de la puissance de la description sur un coucher de soleil ou sur... Enfin, je me suis aperçu de la puissance du verbe et la façon dont les lecteurs, puisque j'ai des retours de lecteurs qui lisent ce livre d'ailleurs en ville, et ça leur fait une bouffée d'air pur pendant les 2 heures de la lecture.
Je confirme.
Voilà, c'est ça.
Et vous, ça a été un plaisir?
Ah, véritablement.
Vous avez découvert un nouveau plaisir de création?
Un immense plaisir. C'est-à-dire que j'avais dit à Christine, mon épouse, si au bout de tout, je voulais pas avoir le syndrome de la page blanche, quoi. J'aurais arrêté tout de suite, et puis une phrase en entraînait une autre, et je suis arrivé. J'ai mis 3 mois pour l'écrire, donc ce qui est relativement rapide, quoi.
Vous avez choisi des séquences, des thèmes. Alors, il y a évidemment, vous parlez des animaux, il y a cette petite renarde qui va arriver, il y a cette avalanche énorme qui passe là, puis il y a aussi, et je ne voudrais pas rentrer dans votre intimité, mais le livre nous y invite, c'est quand même quelque chose qui est magnifique, qui est l'histoire d'amour, parce que un couple qui vit coupé du monde pendant 4 mois, il faut qu'il y ait de l'amour.
Oui, absolument. Au départ, c'était pas. Je suis assez pudique, donc parler de cette histoire d'amour, ça me gênait un peu. Et puis j'ai bien vu que c'était le ciment de ça. Donc ne pas en parler. Alors après, c'est savoir en parler, quoi. Et en fait, j'en parle pas tant que ça dans le livre. Mais ça a marqué les esprits.
Ben oui, mais parce que c'est effectivement, ce que vous dites ciment, ça tient que par la force de l'amour, cet isolement. Ouais. Alors, isolement, en effet, tout relatif, mais vous disiez, vous hésitiez au départ. Vous faisiez lire à votre épouse au fur et à mesure, ou est-ce que ça va, est-ce que je continue,
Oui, je lisais. Enfin, elle était à côté de moi, donc je pouvais pas m'empêcher. Et puis en plus, c'est mon éditrice, et c'est pas mon éditrice depuis ce
oui,
ça. Elle était éditrice de Transperce-Neige, elle a été éditrice de tous mes livres en fait. Et elle laissait faire. Alors après, il y a eu une relecture où on a Je mettais trop d'adverbes, par exemple. Paraît-il, elle trouvait que c'était un peu trop d'adverbes.
La chasse aux adverbes.
La chasse aux adverbes.
C'est normal quand on débute l'écriture, voilà. Marc Rochette.
Et donc, elle avait mis un peu trop d'adverbes. Et donc, on a nettoyé tout ça, et au final, c'est un livre pour qui j'ai eu des retours. J'avais un peu peur, je dois dire. Autant quand je fais une bande dessinée, j'étais à peu près le niveau, mais là, j'étais vraiment dans un beaucoup moins sûr. Et j'ai eu quelques amis qui sont plutôt des gens qui peuvent lire et qui peuvent avoir la dent dure. Voilà, bon, je t'ai rassuré.
Ouais, bah vous avez de quoi l'être rassuré. Jean-Marc Rochette, c'est vrai que moi j'étais aussi très curieux de découvrir ce livre Au cœur de l'hiver que j'ai vraiment savouré d'un bout à l'autre. Et c'est vrai que ça fait du bien de le lire en ville, mais du coup on a envie de venir aux étages. Alors méfiez-vous, vous allez peut-être avoir du monde cet été. Peut-être pas pendant l'hiver, vous serez sans doute beaucoup plus tranquille. Ce livre-là, Au cœur de l'hiver, est donc publié aux éditions Les Étages. Il me reste à vous remercier, Jean-Marc Rochette, d'avoir été notre invité.
Merci, merci beaucoup.
France Culture. Affaires culturelles. Arnaud Laporte.
Il y a quelques mois, le rappeur André 3000 surprenait son monde en publiant New Blue Sun, un album instrumental de flûte. Le musicien britannique Shabaka Hutchings fut convié par l'ancien membre du duo Outkast à jouer du shakuhachi, une flûte japonaise à 5 trous. Là encore, il y avait de quoi être surpris car c'est au saxophone que Shabaka Hutchings s'est fait connaître. Au sein de ses groupes Sons of Kemet ou The Comet is Coming, il avait contribué à agiter la scène jazz au gré de fusions caribéennes et afrobeat par-ci, funk et psychédélique par-là. Or, le musicien avait annoncé au début de l'année 2023 qu'il ne jouerait plus de saxophone en public en raison de l'effort émotionnel et physique que cela implique. En parallèle, il poursuivait l'expérimentation de flûtes en tout genre et un EP publié en 2022 laissait présager une nouvelle direction musicale. Avec la sortie de son premier album solo, Perceive Its Beauty, Acknowledge Its Grace, il confirme cette tendance puisqu'il alterne entre clarinette, shakuhachi, flûte et zvirel dans une fusion jazz et new age. Avec une pléiade d'invités dont André 3000, il livre une formidable odyssée méditative. Le morceau Kiss Me Before I Forget est notre son du jour. C'était Kiss Me Before I Forget de Shabaka. Il sera en concert au New Morning à Paris le 6 mai.
France Culture, le grand tour, le grand tour. Marie Sorbier.
Bonsoir chère Marie, et où êtes-vous ?
Bonsoir Arnaud, je viens d'arriver à Troyes dans le département de l'Aube et je me trouve présentement en face de la cité du Vitrail. Alors justement, on nous attend à l'intérieur. Bonjour.
Bonjour, bienvenue à la cité du Vitrail. Je m'appelle Nicolas Dorman, je suis conservateur général du patrimoine et c'est moi qui ai en charge avec mes équipes la gestion de la cité du Vitrail, entre autres.
Alors la cité du Vitrail, nous y sommes, nous venons d'entrer dans le hall d'accueil. D'abord peut-être un mot, pourquoi ça s'appelle cité du Vitrail et pas musée du Vitrail ?
Alors, parce que le terme de musée nous semblait peut-être un peu trop enfermant. La cité, elle est ouverte sur l'extérieur et c'est d'ailleurs ce qui a justifié la création de cet établissement. C'est un établissement qui se veut accueillir l'ensemble des vitraux d'abord de l'Aube, qui est une des terres les plus riches en vitrail en France, mais aussi des autres établissements, des autres musées qui potentiellement pourraient nous prêter ou nous mettre à disposition par des dépôts, par exemple, leurs vitraux.
Et pourquoi justement alors cette cité du Vitrail est à Troyes ? Est-ce qu'il y a une tradition du Vitrail ici ?
Alors, il y a plus qu'une tradition. En fait, il y a vraiment une très longue histoire du Vitrail dans l'Aube. Les premières traces du Vitrail chez nous remontent au XIIe, XIIIe siècle, en tout cas pour les vitraux que nous avons conservés. Mais surtout, nous avons eu plusieurs âges d'or extrêmement importants qui ont laissé des traces très conséquentes. Vitraux qui, du fait de l'absence de conflits au XIXe, au XXe siècle, l'Aube a été très peu touchée par les deux guerres mondiales, eh bien, sont toujours en place et donc constituent cet incomparable patrimoine.
Et qui dit vitrail dit lumière, j'imagine que ça a dû être aussi des réflexions et un travail particulier.
Exactement, vous verrez, la lumière est très présente, notamment dans deux espaces, la chapelle et la grande galerie des vitraux, où on essaye vraiment de présenter le vitrail en lumière naturelle. C'est vraiment le parti pris qui a été retenu.
Alors aujourd'hui, il fait très bon, on a de la chance. Alors on vous suit, vous nous montrez quelques trésors.
Alors on va prendre l'escalier d'honneur pour commencer.
Allez, formidable. On vient d'arriver au cinquième étage.
Et nous voilà dans les combles de l'ancien hôtel du Lecomte, donc qui était l'hôpital historique de la ville de Troyes. Et le principe a été de transformer cet espace en espace d'explication du vitrail. On a souhaité ici répondre aux questions que le public nous posait depuis 2013. Donc tout cet espace où nous nous trouvons essaye de répondre à ces questions à travers des pièces originales, évidemment. Un espace qui reconstitue un atelier de maître verrier
idéal. C'est ce qu'on voit au fond, là.
C'est ce qu'on voit au fond, tout à fait. Donc, on va voir les différents outils utilisés. On va voir les casiers dans lesquels le verre est stocké, les différents pinceaux qui peuvent être utilisés.
Tout de suite, ce qu'on voit quand on voit cet atelier, même quand on n'y connaît rien à comment un vitrail est constitué, c'est qu'il y a ce double rapport, c'est-à-dire qu'il y a un geste très artistique, on reconnaît les pinceaux, les couleurs, mais il y a quand même quelque chose d'assez technique avec les marteaux, les clous.
Exactement. C'est un... Alors, les maîtres verriers le diraient mieux que moi. On est vraiment un art à la croisée de l'artisanat d'art et de la création artistique. Un maître verrier peut être simplement quelqu'un qui réalise des vitraux sur des cartons qu'ont fait d'autres artistes, des peintres notamment. Mais il peut aussi être un créateur, c'est-à-dire être lui-même le créateur des œuvres qu'il va réaliser.
Alors, vous évoquiez la présence du vitrail, bien sûr, dans les églises, mais est-ce que vitrail égale forcément art religieux, même historiquement parlant ?
Non. Alors, historiquement parlant, il semblerait que, tout à fait au début, donc au milieu du IVe siècle, Ve siècle, le vitrail soit surtout utilisé en milieu civil, dans des édifices qui peuvent être des édifices civils comme les basiliques de l'Empire romain ou des grands édifices comme les villas ou les grandes domus urbaines. Ensuite, ce vitrail, évidemment, il va être surtout lié aux édifices religieux, on le disait tout à l'heure, hein, mais très rapidement, dans les châteaux, dans les demeures bourgeoises, notamment dès le 15e, 16e, 17e siècle, on va trouver des vitraux qui vont orner des fenêtres de grandes demeures. Alors évidemment, il faut avoir un certain niveau social, une certaine aisance pour pouvoir se payer les verriers qui vont réaliser ces vitraux, mais on en a la trace et on en présente quelques-uns dans la cité du vitrail. Et aujourd'hui, le vitrail se trouve aussi bien en milieu civil qu'en milieu religieux. Donc on passe à travers les époques, peut-être simplement prendre 30 secondes pour voir les vitraux du 16e siècle, qui sont vraiment cette caractéristique du vitrage champenois, les plus présents et les plus caractéristiques. Donc ces vitraux, on a essayé de les exposer dans un espace qui leur est réservé, au 5e étage.
Il faut dire qu'ils sont à hauteur d'yeux, c'est-à-dire que quand on visite, on les a en face, contrairement à quand on les voit dans des grandes demeures où ils sont parfois très hauts.
Exactement. C'était vraiment là aussi un des partis pris. La lumière naturelle, on en a parlé. Le fait de pouvoir les exposer le plus possible dans des architectures ou dans des serreries les plus simples ou les plus proches possibles de la réalité. Et puis, vous l'avez dit, à hauteur de regard.
Là, on voit aussi les jeux de couleurs. Parfois, on visualise les vitraux avec ces couleurs comme devant nous, du doré, du bleu très fort, du rouge. Mais il y a aussi des vitraux qu'on peut découvrir là sur notre gauche qui sont plus en grisaille.
Tout à fait, qui sont en grisaille. En fait, ce sont plusieurs techniques qui sont créées au fil du temps et qui sont utilisées à partir du moment où elles sont maîtrisées indifféremment par les peintres verriers en fonction de la commande qui leur est faite, en fonction aussi parce qu'il y a un travail sur l'édifice et sur la lumière, en fonction donc de l'emplacement qu'aura le vitrail dans l'édifice, et donc qui vont permettre de créer des environnements lumineux extrêmement différents selon les cas. Descendons de deux étages, on arrive au niveau 3, après avoir été passé par le centre de documentation. Donc ici, nous arrivons dans la grande galerie des vitraux. Donc dans cette grande galerie, le parti pris est tout à fait différent. On est en lumière naturelle. Donc on va passer du 12e siècle au 21e siècle, avec, si on se retourne, un vitrail qui est une création de Kind Wiley. Un vitrail assez surprenant, donc qui représente une madone avec un enfant. Donc en soi, le sujet est très classique, sauf que la Madone est afro-américaine, elle est habillée en Adidas, elle a un haut de survêtement Adidas, en jeans, son fils est habillé comme elle, comme un jeune garçon du 21e siècle, et puis elle trône en majesté dans un décor 19e, qui est repris par l'artiste de dessins préparatoires d'Ingres pour des vitraux du 19e siècle.
Ce qui est très étonnant, c'est que quand on se retrouve devant un très grand ensemble comme celui qu'on a en face des yeux, évidemment, il n'est pas fait pour être vu dans cette perspective-là. Donc on voit à quel point, justement, le travail de perspective devait être important pour les maîtres verriers, parce que les personnages devaient être vus d'en bas. Et donc, forcément, quand on les voit de face, ils sont un peu déformés.
Ils sont tout à fait un peu écrasés. Donc ce sont effectivement des baies qui, habituellement, se trouvent à minima à 4-5 mètres de hauteur, qui peuvent être jusqu'à 9-10 mètres de hauteur. Et donc, on a ces scènes de la Passion qui sont décrites. Et le vitrail est intéressant à deux titres. Il est intéressant d'abord par la technique qui est présentée, et aussi parce que c'est un vitrail qui a vécu. Il y a des parties du vitrail qui ont été détruites, sans doute par des grêles, par les aléas du temps. Et vous voyez que tout un panneau central a été restitué avec des éléments très divers.
Oui, on dirait un patchwork.
C'est ça, un patchwork, une macédoine.
Oui.
Et finalement, quand on le voit de loin, ça ne choque pas du tout. C'est-à-dire que c'est surtout la lumière qui va jouer. Mais quand on s'en approche, oui, on se rend compte que c'est...
C'est vraiment de briques et de broc.
C'est de briques et de broc, exactement. Donc là, c'est notre pièce, notre chef-d'œuvre. C'est-à-dire, la pièce s'appelle la salle du chef-d'œuvre. C'est un vitrail qui représente la transfiguration, donc le Christ au milieu des deux prophètes. C'est un chef-d'œuvre parce que c'est un des rares témoins de ce vitrail du XIIe siècle. Il en reste très peu. Et quand il en reste, ils sont très dispersés. Il y en a au musée de Cluny, il y en a au Victoria and Albert Museum à Londres, il y en a aux États-Unis. Quelques pièces toujours de ces vastes ensembles qui devaient être extrêmement importants, vu la taille des édifices qu'ils ornaient. Et parce qu'il est passé à deux doigts de passer complètement sous les radars. Donc c'est à la fois un chef-d'œuvre par ce qu'il représente, par sa technique et par son histoire très particulière.
Et là, la muséographie nous permet de voir en fait l'arrière du vitrail.
Exactement. Le principe pour ce vitrail-là, ça a été de montrer l'arrière, donc le travail de mise en plomb et le travail de restauration, pour montrer qu'un vitrail est fait pour être lu dans la lumière. Et puis, on a restauré en totalité la chapelle, qui sert maintenant de lieu d'exposition, puisque les très grandes baies qui au XIXe siècle étaient ornées de grands vitraux figuratifs, ont été, elles, détruites en 1944. Il y a une bombe qui a explosé à proximité. C'est une des rares pertes de vitraux que nous ayons eues dans le département. Mais ce qui fait que nous disposons de très grandes baies blanches, et ces baies ont été doublées d'une serrurerie qui nous permet d'y exposer des vitraux de très grande taille.
C'est une des caractéristiques de la Cité du Vitrail, non, cette exposition, j'allais dire, dans leur habitat naturel?
Exactement. C'est vraiment le principe donc de faire en sorte que le visiteur, même si le vitrail est parfois, on le disait, très proche de lui, beaucoup plus proche qu'il ne sera jamais dans une église, eh bien, le découvre dans sa serrurerie originelle, ou la plus proche en tout cas de l'origine.
Merci beaucoup pour cette visite lumineuse, si j'ose dire.
Merci à vous.
Suite du Grand Tour demain, Marie Sorbier, où serez-vous ?
Demain, Arnaud, je serai toujours à Troyes et nous irons dans un atelier de création et restauration de vitrail qui travaille notamment sur certains vitraux de Notre-Dame de Paris.
Merci Marie, à demain. Cette émission, comme toutes celles de la chaîne, est à écouter ou podcaster sur le site de France Culture ou via l'application Radio France. Une émission préparée avec Boris Pinot, Anouk Minaudier, Jules Barbier, Marceau Vassy, Lise Ripoche et Emma Rouberti.